Bonsoir, c'est juste pour rappeler que tu n'as pas répondu à la question sur la rémunération et je voulais en profiter pour, parce que ça va, c'est un peu le même sujet. J'ai entendu parler très brièvement de la baisse des cotisations salariales et ensuite patronales et donc je voulais avoir un peu d'éclairage là-dessus.
Alors oui, alors effectivement, Denis a posé une question tout à l'heure. Denis étant responsable du SFA, il sait très bien que si on n'a pas répondu tout de suite, c'est ce qu'il faut qu'on étudie dans le détail. Moi, comme ça, à première vue, mais on en débattra, il faudra qu'on l'analyse. Il faut quand même qu'il y ait un accord soit d'entreprise, soit de branche. Et donc, on a là aussi la possibilité, tu parlais de l'Opéra de Lyon, de voir comment on peut bloquer ce genre de choses. Mais il faut qu'on regarde, les dangers sont partout, il faut qu'on regarde dans le détail, dans les ordonnances, il y a des trucs. C'est le problème de la loi travail 2016 comme celle-là, le but est de complexifier. On nous parlait de simplification au début, rappelez-vous, c'est parce que le code du travail il est trop compliqué et autres. Mais là, il va être infiniment plus compliqué. On va avoir un code du travail selon les entreprises, selon les branches, selon les accords qui sont mis à un, selon les rapports de force qu'il y a. Là. Et c'est bien là la question. Nous, on est pour un code du travail simplifié. Il y en a un, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus, GR Pact. Il est très très bien leur code du travail simplifié et court. Mais il y a tous les droits pour les salariés qui sont rétablis et c'est pas du tout la même chose que ce morcellement en dentelle. Quoi. Donc, pour répondre précisément à la question de Denis, il y a des éléments. Ta question sur... la baisse des cotisations. Alors, effectivement, il a été annoncé dès le 1er janvier une suppression des cotisations assurance chômage pour le régime général, c'est 2,4 points, et de la cotisation maladie de 0,75 points. Donc ça fait une suppression des cotisations de 3,17 ou 3,15. Et en échange, il y aura une augmentation de la CSG, la contribution sociale généralisée, de 1,7 points. Alors on se dit, en salaire net, on va y gagner. Sauf que, il y a plein de sauf que. Il y a un changement d'état d'esprit. Ce n'est plus de la cotisation salariale. Donc ce n'est plus du salaire différé que nous essayons de gérer avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur l'UNEDIC ou l'assurance maladie depuis que, par rapport à ce que ça a été imaginé comme projet de sécurité sociale. Mais il n'empêche que ce n'est plus de la cotisation, c'est de l'impôt. Et donc c'est soumis au bon vouloir d'un gouvernement qui en change comme il veut et pas géré par nous. Ça, c'est sur le principe. D'autre part, sur la baisse. Déjà cet été, ils sont revenus sur la baisse. La hausse des cotisations de la CSG, elle est prévue au 1er janvier. Ça, c'est net. Plus 1,7. Par contre, la baisse des cotisations, oui, mais quand même, on va le faire en deux temps. Donc, on aura une partie de la baisse au 1er janvier, puis une autre partie de la baisse à l'automne. Et on ne sait pas encore dans quelle proportion. Ce qui fait que, même en numéraire, le gain de salaire net, il risque d'être très, 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 très faible. D'autre part, les retraités qui gagnent plus que 1200 euros, eux, ils perdent beaucoup. Les fonctionnaires, une copine de la CGT Culture nous disait à 2500 euros par mois, elle perd 55 euros et on leur a dit des compensations, mais les compensations, pour l'instant, elles ne sont même pas discutées. Donc, il y a plein de mais. Quoi, hein. Donc là-dessus, c'est toute l'hypocrisie de Macron, quoi, qui on nous promet des améliorations, sauf qu'elles servent d'abord au patronat. Elles servent aux plus riches, déjà, hein, et je suis d'accord, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par certains. Ce n'est pas seulement le code du travail, ce n'est pas seulement le monde de la culture ou du spectacle. C'est tout un changement de société qui se dessine avec une société de plus en plus inégalitaire, que ce soit fiscalement, que ce soit socialement et à plein de niveaux. C'est clairement, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Macron fait ce qu'a fait Sarkozy et ce qu'a fait Hollande d'une certaine façon, aussi à plein de niveaux. Quoi. Donc, mais la bataille continue. Ceci étant dit, avant donner la parole. Moi, je sais que dans cet endroit où, même s'il est chargé d'histoire et où l'acoustique n'est pas très bonne, on a tendance à s'écouter un peu en plombant un peu l'affaire avec les échos qu'il y a. Il n'empêche que notre secteur en particulier, mais ce n'est pas le seul, a montré qu'il faut construire des rapports des forces et qu'on peut gagner. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à élargir. On n'est pas tout seul et on l'a toujours fait en lien. L'occupation du MEDEF qui donne lieu à la longue affaire judiciaire de Loïc et de quelques autres, mais toujours de Loïc, c'était à la fois le contexte pour faire valoir notre accord assurance chômage où nous avons gagné. Alors, ce n'est pas un accord parfait, mais nous avons gagné. Et c'est la bataille sur la loi de travail qui a quand même coûté son poste à Hollande et à quelques autres. Eh bien, faisons pareil avec Macron. On va continuer, même si ça va prendre quelques années. Il a été élu pour 5 ans. Qui voulait prendre la parole ? Oui, voilà, ici.
C'est juste pour dire que, personnellement, je ne sais pas si je serai suivie, parce que je ne suis pas une... Mais enfin, la baisse des cotisations sociales, moi, j'en veux pas. Parce que ça ne sert qu'à allonger la corde sur laquelle ils vont tirer pour m'étrangler. C'est-à-dire qu'évidemment, si on baisse les cotisations salariales, qu'elles soient patronales ou qu'elles soient salariales, on aura moins de retraites, on aura moins de chômage, on aura moins de tout ça. Donc il faut pas que ça baisse. Au contraire. Voilà, c'est tout.
En fait, c'est des questions peut-être un peu techniques, mais surtout pour toi, enfin, par rapport à l'avenir sur l'assurance chômage. La première, c'est est-ce qu'il a déjà été calculé justement au niveau du budget général le remplacement de la est-ce que le remplacement de la CSG avec toutes les réserves dont tu as parlé, évidemment qu'on peut que être d'accord, mais au niveau comptable, est-ce que le remplacement de la CSG pour tous, est-ce que au niveau de l'enveloppe est-ce que ça recoupe la même somme que la suppression des cotisations? Je veux dire, est-ce qu'ils arriveront à faire un budget constant? Bon, parce que déjà, s'ils font un budget constant, comme ils veulent élargir l'assiette des chômeurs, c'est-à-dire faire rentrer dans l'assurance chômage, moi je suis pour faire rentrer dans l'assurance chômage des gens qui n'y ont pas le droit, très bien. Mais donc, ils vont avoir plus de candidats à l'assurance chômage si, au niveau du montant général, il y a moins... ou même à flux constant, ils vont être obligés soit de diminuer le nombre d'indemnités versées, soit de diminuer le montant de chaque indemnité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle est spécifique aux années 8 et 10, on cotise double, et comme ils ont, depuis le début, même si on dit que c'est aberrant, ils font de la comptabilité analytique, en séparant nos comptes du reste, alors qu'on fait encore et toujours partie du même caisse. Donc, en supprimant les cotisations, et donc double, on va du coup se retrouver avec beaucoup moins de recettes, au niveau analytique, je parle, par rapport au régime général, puisque eux cotisent simple. Alors, est-ce quid du manque à gagner des recettes doubles par rapport à notre secteur? Est-ce qu'on en parle déjà dans les coulisses, dans les réunions bilatérales que j'imagine vous pouvez avoir par rapport à ces discussions sur l'assurance chômage?
Alors, sans faire trop technique, le budget de l'assurance chômage, c'est 37 milliards de cotisations annuelles. À peu près, c'est à peu près ça depuis quelques temps. La cotisation, elle est, qui est alimentée uniquement par la cotisation. Je ne parle pas du déficit de l'assurance chômage qui existe. Hein. Enfin, je ne parle pas des déficits de l'assurance chômage. Mais c'est 37 milliards de cotisations qui se répartissent pour le régime général. Nous, c'est le double, tu l'as dit, mais le gros du budget, c'est quand même les cotisations. C'est 6,4, 4 points de cotisation patronale et 2,4 salariale. Donc, si tu supprimes les 2,4, tu supprimes plus du tiers des 37 milliards. Donc on est à peu près à 15 milliards de pertes de recettes en supprimant la cotisation salariale. La cotisation, l'augmentation de la CSG à 1,7, comme elle a une assiette plus large parce qu'elle est sur différents revenus et autres, c'est censé rapporter 22 milliards. Mais dedans, il y a aussi eu une suppression des cotisations maladie. Donc il faut qu'une partie des 22 milliards aille à la Sécu pour l'assurance maladie, qui elle-même a toujours du mal à boucler son budget puisque on n'a pas de cotisation à hauteur des besoins, quoi. Et on le sait très bien. Hein. En plus, je ne parle pas des mutuelles et autres. Donc pour l'instant, on ne sait pas la clé de répartition des 22 milliards que sont censés rapporter les 1,7 points de CSG et si ça va compenser ou si ça va amener plus pour l'assurance chômage. D'autre part, comme tu l'as dit, il est prévu d'élargir, de prévoir une assurance chômage pour les indépendants. En fait, des indépendants, ceux qui sont visés, c'est ceux qui devraient être salariés, les chauffeurs VTC, les Deliveroo et autres, des gens qui, en fait, sont totalement en lien de subordination économique, encore plus pire que les salariés, parce qu'ils n'ont même pas la protection minimale qu'offre le Code du travail et les conventions collectives. Donc, c'est ceux qui sont visés, parce que les autres indépendants, les professions libérales, ils ne sont pas demandeurs, et ils n'en ont pas envie de cotiser plus pour des droits. Ils l'ont tous dit, les patrons de ce secteur, les petits patrons, les architectes, médecins, artisans et autres. Donc là, il y a des inconnus par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la CSG, elle est dans le plan de financement de la sécurité sociale. Donc la suppression de la cotisation en chômage, le remplacement par la CSG, c'est au 1er janvier. Il y a des groupes de travail au sein des ministères, au sein du gouvernement, qui bossent depuis le mois de juillet. On le sait parce que l'UNEDIC a été invité. Donc moi, je siège à l'UNEDIC, donc je le sais, même s'ils sont obligés de nous le dire, quoi. Voilà. Y compris le MEDEF et la CFDT, ça leur plaît pas trop qu'on leur pique leur bébé qui est l'UNEDIC, même si nous, on leur a piqué un petit bout en leur enlevant le pouvoir de décider ce qui est fait sur les annexes 8 et 10. Donc, du coup, il y a des inquiétudes par rapport à ça, mais ils y travaillent, et donc on va nous dire à un moment, à l'automne, on va ouvrir une concertation. Alors, ça va être comme la concertation sur le Code du travail. Hein. C'est Macron, il est vachement plus concertant que Valls. Oui, il concerte, mais enfin, la concertation sur le Code du travail, vous savez ce que c'est. Hein. C'est en tout et pour tout, ça a été 7 heures de rencontres bilatérales avec la CGT, dans lequel on ne filait pas les textes d'ordonnance, on les a eus la semaine dernière, et dans lequel on ne disait pas tout. Donc une concertation pour nous, c'est au moins d'avoir le texte avant, quoi, parce que là, on a le temps d'y réfléchir. Si sur l'assurance chômage, c'est pareil, ça risque d'être tendu. Ça risque d'être tendu sur le régime général, parce que derrière le côté qui est bien mis en avant, l'ouverture, élargir l'assurance chômage aux indépendants, permettre, moi aussi je suis pour une sécurité sociale professionnelle dans laquelle il y a un rendu de remplacement où personne ne se retrouve sans revenu, c'est la revendication de la CGT. Il y a aussi l'idée, par exemple, de pouvoir avoir droit une fois tous les 5 ans en cas de démission au droit à l'assurance chômage. Moi je suis pour supprimer la notion de chômage involontaire. Donc la question ne se pose pas, c'est même pas une fois tous les 5 ans. On devrait avoir droit à une mobilité, changer de boulot. C'est aussi ce qui permettrait aux gens de changer de travail et d'avoir un droit à la mobilité à l'initiative des salariés. Mais derrière, il y a aussi un autre truc qui est plus du tout, qu'on n'entend plus du tout dire dans les propositions de Macron. C'est les sanctions contre les chômeurs renforcées. C'est que là, il existe déjà une disposition qui dit que si tu acceptes pas 2 offres raisonnables d'emploi, c'est un article du Code du travail, tu peux te faire radier. Et là, Macron, il l'a redit, ce truc-là. Il l'a redit, et il l'a redit en ayant en tête ce qui se passe en Allemagne. Je trouve qu'il y a si vous avez l'occasion, ça a été dit à différentes époques, hein, les réformes Hartz IV, mais allez voir certains articles de Mediapart en ce moment, de quelques autres, mais Mediapart notamment a fait un dossier très très intéressant là-dessus. Et ben, les sanctions contre les chômeurs, c'est très clair, quoi. C'est tu dois tout le temps être en train de faire des demandes, des bidons pour pouvoir garder tes 400 euros, sinon c'est l'inquisition sur toute ta vie privée qui est décrite. Donc là-dessus, il y a clairement le risque que les offres d'emploi raisonnables... Alors, il se trouve que très récemment, justement au niveau confédéral CGT, on a démontré que les offres d'emploi sur le site de Pôle emploi, il y en avait 1 sur 2 qui étaient pourries, qui étaient illégales, qui étaient des offres de reprise de bar-tabac, voire des offres de prostitution, on en a trouvé quelques-unes, des offres qui ne se présentent comme des CDI alors que ce sont des CDD, ce genre de choses. Donc, il y a énormément de choses à critiquer. Et puis sur les annexes 8 et 10, effectivement, on s'est battu parmi tous les points contre lesquels on s'est battu en 2003 contre le doublement de la cotisation. Doublement de la cotisation patronale, mais surtout nous, on s'est battu en tant que syndicat contre le doublement de la cotisation salariale qui faisait perdre 2,4 points supplémentaires de salaire sur le net. Donc, sur le salaire net, hein, je ne parle pas sur Internet. Et donc, sauf que ces questions-là, bah oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on supprime les 2,4 et comment on les... Je pense, dans l'équilibre qu'on a trouvé dans le 28 avril, hein, je dis ça en nom personnel, on n'a pas eu le temps d'en débattre, que là, on n'a pas trop intérêt à demander la suppression des 2,4 points. Mais si on est les seuls à avoir une cotisation assurance chômage, ça va faire bizarre. Hein. On va être les seuls à demander la gestion de l'assurance chômage, peut-être. On va voir. Maintenant, le risque qu'il y a derrière. Certains y ont pensé, c'était dans un article de presse d'un mec du patronat, d'un think tank du patronat cet été. Oui, il faut aller vers un système pas du tout universel. Il faut aller vers un système qui soit une sorte de système copié, par exemple, sur celui des retraites. Un régime de base dans lequel on peut mettre les indépendants, financé par la CSG, qui est de plus en plus un système de solidarité et plus un système d'assurance sociale. Du coup, c'est le minimum qu'il faut pour éviter les jacqueries, voire même un système forfaitaire, comme en Angleterre. Voilà. Un régime de base, et puis un régime complémentaire qu'on peut séparer par appartement, par secteur, et pourquoi pas faire une caisse autonome ou semi-autonome pour les intermittents là-dedans. Donc là, il y a ce risque-là. Et ça, c'est ce genre de choses qu'on va surveiller comme lait sur le feu. Non pas pour dire que, voilà, c'est encore une fois les intermittents, mais parce que le principe, c'est dangereux pour nous, mais le principe de la séparation par appartement, c'est le principe de la fin de la solidarité interprofessionnelle. Ce n'est pas du tout une amélioration de l'assurance chômage. C'est au contraire même la voie vers sa privatisation. Et certains en rêvent. Ça fait déjà un bout de temps que des assurances privées rêvent de privatiser l'assurance maladie, qu'il l'est en partie à travers les assurances privées, avec les complémentaires, etc. Mais pourquoi pas sur l'assurance chômage, sur les secteurs les plus rentables, évidemment, sur les secteurs où il n'y a pas beaucoup de risques et beaucoup de cotisations. Donc là, oui, il y a des trucs. Alors ça fait heureusement encore beaucoup de débats, y compris au sein du patronat. On n'est pas là, mais il faut qu'on surveille ça avec une grande attention dès qu'on en sait un peu plus. Je t'ai à peu près dit tout ce que je sais, et y compris, je pense, que tout ce que savent même nos signataires habituels des conventions d'assurance chômage, MEDEF, CFDT. Il y a une réunion demain au MEDEF auquel je participe. On a essayé de faire en sorte que ce n'est pas lié au MEDEF, mais enfin, encore une fois retrouvé tout seul à demander à ce que ça se passe ailleurs. Mais on verra ce qui leur sort comme info et sur ce qu'il peut avoir là-dessus. Mais c'est aussi une des questions. En tout cas, c'est par rapport à nos obligations du 12. C'est clair qu'il y a le code du travail, il y a l'assurance chômage, il y a les retraites, il y a la formation professionnelle, il y a plusieurs points. Et puis la réforme de la fiscalité qui vont dans le sens d'une société de plus en plus inégalitaire. Voilà, je ne vais pas faire trop long, mais sur les retraites, on aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas l'âge de la retraite qui est visé, c'est le mode de calcul avec un système de points qu'on aura chacun acquis et qui est une catastrophe pour tous ceux qui ont eu des carrières discontinues, des temps partiels ou des temps de chômage. Et donc, les artistes et les techniciens intermittents du spectacle en particulier, quoi. Donc,
Oui, puisque tu évoques les questions de mode de calcul, je voulais savoir si dans les syndicats ou dans la coordination ou ailleurs, d'autres copains avaient bossé sur ce qu'avait donné la réforme qui est en place depuis un an, le nouveau mode de calcul de nos indemnités d'intermittents, parce que je crois qu'on est quand même très nombreux à avoir constaté que nos indemnités avaient baissé, voire beaucoup baissé. Et je ne sais pas si on a réussi à faire des moteurs de calcul et des projections qui nous permettent de savoir ça. Je voulais aussi demander quand étaient les prochaines permanences sociales à la FEDE, parce qu'une fois tous les 15 jours, le vendredi matin, on se retrouve pour les permanences sociales, pour tous ceux qui ont besoin de renseignements, de soutien, d'aide dans leurs dossiers divers. Et on n'a pas encore repris là pour cette saison, mais c'est important d'annoncer quand on va reprendre. Et puis dans le calendrier, donc il y a le 11 septembre, donc nous on a un rendez-vous ici. Le 11 septembre au soir, donc on a un rendez-vous ici. Le 12 septembre, on a tous rendez-vous à Bastille à 14h pour nous rendre ensuite à Place d'Italie en manifestation. Et puis on avait dit aussi, on a été nombreux à dire, il ne faut pas que ça s'arrête le 12, il faut qu'on prépare la suite, etc. Donc je sais qu'ici, il y a le Front Social qui appelle à un meeting le 13 septembre à 18h30, je crois, dans cette salle. Et voilà, et qu'est-ce qu'on construit ensuite après le 12 septembre? Est-ce qu'on a d'autres échéances après le 12 septembre, après le 13 septembre, pour continuer et amplifier la mobilisation, puisqu'on ne s'arrête pas sur une seule date contre la loi travail XXL, on sait que ça ne suffirait pas.
Alors, il y a plusieurs questions dans ce qu'a dit Loïc. Je ne sais pas, sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Et puis, vous avez réunion à 20h30 pour préparer le 11 septembre, mais après. Hein, voilà. Donc, la question sur l'accord du 28 avril 2016, oui, il y a des choses positives et négatives dans l'accord. Il y a des choses qu'on avait prévues et d'autres choses qu'on avait moins prévues, pour dire les choses clairement. Bon, dans les choses positives, on rencontre beaucoup de monde qui nous dit « j'ai enfin ouvert des droits grâce aux 5 secteurs sur 12 mois ». Ça, c'est clair, surtout dans la période. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les allocations ont baissé pour un certain nombre, y compris dans les allocations très moyennes, hein, pas les plus élevées. On avait réussi à mettre un plancher à 38 euros et 40 pour l'annexe 8 et 44 euros pour l'annexe 10. Mais on savait qu'on était au-dessus et on sait qu'il y a plusieurs allocations à 50 euros qui perdent 2 ou 3 euros par jour. Et ça fait beaucoup en fin de mois, quoi. Donc, effectivement, l'accord n'est pas parfait. Ça pose des questions sur la façon dont, si on a l'occasion de renégocier, encore une fois, où on a encore une fois à notre disposition des modes de calcul qui permettent d'éviter ça. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, y compris Mathieu Grégoire ou Louvoff nous ont alerté vraiment aux toutes dernières minutes en disant attention, il y a des effets qui peuvent être dangereux sur tel ou tel point. Il y a d'autres effets négatifs, par exemple, certains à Pôle emploi ou à l'Unédic se sont empressés de dire que le fait qu'on ait une date anniversaire, même si elle est mobile, comme avant 2003, ça fait que dans les congés maladie, pas maternité, maternité ça va, ça s'est plutôt amélioré, mais les congés maladie, on repousse de la durée du congé maladie la période de recherche de droit, mais pas l'indemnisation. Donc si t'es un mois en arrêt maladie, t'as un mois de plus pour faire tes heures, mais t'as pas un mois de plus d'allocation à ta date anniversaire. Donc c'est problématique, alors que c'était pas du tout l'esprit de l'accord et de ce qu'on a signé. Pour nous, il n'y avait pas de recul sur ce point-là. On n'avait pas réussi à obtenir mieux sur les congés maladie, comme ce qu'on a obtenu sur les congés maternité, mais on ne l'a pas eu. Et donc, sauf pour les affections longue durée qui sont concernées. Donc oui, il y a des évaluations, mais je pense qu'il faut qu'on dise très clairement ce qu'il y a dans l'accord. Et puis, on a aussi eu, par exemple, un groupe Facebook qui s'est créé de techniciens de l'audiovisuel, de gens qui travaillent beaucoup dans la Presta ou autres, qui ont dit que cet accord leur a fait perdre beaucoup. Alors, c'est des gens qui travaillent parfois de nombreuses heures et qui travaillent beaucoup. Effectivement, ça, c'est un effet attendu, quoi. Cet accord est un équilibre qui n'était pas suffisant pour pouvoir... Mais on avait fait le choix de l'ouvrir à plus de monde et d'en faire un accord, on va dire, entre guillemets, plus redistributif, ce qui est un choix qui peut être critiquable, mais c'est celui qu'on a fait, quoi. Et en l'occurrence... ça grince dans son dedans et c'est logique, quoi, parce que on a dû nous-mêmes choisir entre ceux qu'on servait ou autres. Mais donc la bataille, c'est d'avoir de meilleurs financements, y compris je rappelle que entre le 25 et le 28 mars, si on n'a pas signé le 25 mars, c'est qu'on a obligé nos employeurs à augmenter leur part de cotisation pour que ce soit justement moins difficile à faire passer ces économies qui ont permis d'ouvrir des droits à ceux qui n'en avaient pas. J'ai répondu à toutes tes questions, mais... Permanence et mobilisation. Permanence sociale. Alors oui, on met une permanence sociale à la fédération depuis un an, à peu près, un peu moins d'un an, auquel plusieurs camarades, tout le premier rang, là, participent, et puis il y en a un autre d'ici, là, aussi, qui est très utile, hein, parce que du coup, on est venu, c'est pas la seule, mais ça permet de répondre à des questions pour des gens qui ont eu, et on a résolu pas mal de dossiers, y compris depuis qu'on a un comité d'écoute au niveau de Pôle emploi service sur les intermittents, où on fait passer un certain nombre de dossiers, il y en a pas mal. La question, c'est qu'on a on avait l'intention, normalement c'est le premier et troisième vendredi de chaque mois, ce qui aurait voulu dire là, vendredi dernier même d'ailleurs, là on ne l'a pas relancé. On a un petit problème de calendrier parce qu'il y a la fête de l'UMA le deuxième vendredi, le vendredi 15, et puis surtout il faut que ça repose sur les épaules de quelques camarades, il faut qu'on soit un peu plus nombreux pour la tenir, mais c'est toujours à l'ordre du jour. On va fixer la date, après c'est un peu mieux organisé. S'il y a des gens qui veulent, des camarades syndiqués ou qui ne sont pas encore syndiqués mais qui vont prendre leur carte dans pas longtemps, venir l'aider avec des camarades un peu plus expérimentés, n'ayez pas peur, une permanence, c'est déjà écouter les personnes qui ont des problèmes pour pouvoir leur répondre, même si on ne connaît pas sur le bout des doigts la réglementation, au fur et à mesure on l'apprend. Comme disait je ne sais plus quel camarade, nous sommes tous des experts assez rapidement de nos propres situations. Sur les mobilisations après le 13, donc tu as donné quelques dates, nous, demain, direction de la CGT, commission exécutive confédérale, il y a une discussion qui parle notamment des suites après le 12. Alors la question, c'est qu'on marche toujours sur des œufs, parce qu'effectivement, ça ne s'arrêtera pas le 12, ça c'est sûr et certain, même si le calendrier est très serré. La question, et puis il va falloir évaluer ce qui se passe le 12, bien sûr, mais il faut prévoir avoir un coup d'avance. Le prétexte, par exemple, de FO ou d'autres, pour la CFDT, on ne sait pas d'illusion, mais de FO pour dire que voilà, c'est qu'on ne répond pas à une convocation. Les réunions, elles sont les assemblées générales, les mobilisations, elles doivent être décidées en commun, sauf qu'on leur a proposé de venir aux intersyndicales, ils ne sont pas venus. Bon, donc, mais il faut garder la porte ouverte, vu ce qui se passe à FO en particulier dans un certain nombre d'organisations. Donc, mais moi, je suis persuadé qu'il faut qu'on reparte sur des dates assez rapprochées et dans un des calendriers aussi rapprochés. C'est pas des dates trop éloignées et très, très éloignées entre elles qu'il faut prendre. Ça, c'est, mais par contre, il faut le réussir parce qu'une grève générale illimitée, comme on le souhaiterait, ça se construit et pour l'instant, on est un peu des inconnus là-dessus, quoi. Alors, il y avait des prises de parole là-bas. Sam ?
Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais Loïc, je vais revenir par rapport à ce que tu disais, c'est juste, mais en fait, ce qui a été assez compliqué, c'est que l'indemnité journalière n'a pas bougé, mais elle a été proratisée. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que actuellement, les heures, elles étaient souvent recherchées, non pas sur 12 mois, mais sur 10 mois, 10 mois et demi, 11 mois. Et mécaniquement, ils se sont dit, si on trouve 550 heures sur 10 mois, si on trouve 500 heures sur 10 mois, ça fait 50 euros par mois en moyenne, sur 12 mois, on va en trouver 600. Voilà. Donc, ce qui se passe là, c'est que dans beaucoup de cas, les heures sont recherchées sur les 10 derniers mois, si tu as épuisé tes heures en 10 mois. Et comme c'était proratisé, effectivement, ça fait une IJ en baisse. Ce que je veux dire, c'est que la prochaine fois, les heures seront recherchées effectivement sur 12 mois. Donc il y a forte chance que sur 12 mois, on trouve plus d'heures que quand on en cherchait sur 10 mois. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ce n'est pas tout à fait juste pour des artistes qui ont le même projet par an ou un projet et demi qui de toute façon faisait 510 heures en 10 mois et demi et qui maintenant font aussi 510 heures en 12 mois. Ceux-là perdront. Mais par rapport à des techniciens qui auraient tendance à travailler plus régulièrement, d'une manière globalement statistique, on s'aperçoit effectivement que celui qui faisait 500 heures en 10 mois, on va en trouver 600 en 12 mois. Ce que je veux dire, c'est que pour celui qui faisait 500 heures en 10 mois, à qui on trouvera 600 heures en 12 mois, il ne perdra pas au niveau de l'IJ. Il se trouve que si ça a été proratisé, c'est parce que de manière mécanique, non, l'IJ n'est pas en baisse. L'IJ n'est pas en baisse dans la formule de calcul. Ça a été proratisé. Attends. Bon, d'accord. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si jamais, c'est pour pallier l'effet inverse, si jamais il n'avait pas proratisé, de fait, d'une manière générale, l'IJ aurait été en hausse en moyenne de 2 euros par intermittent. Certains auraient pu plus 4, certains plus 1. Et ils ne voulaient pas, et ça aurait fait des dépenses ultra supplémentaires. À cause de cet effet mécanique que si on recherche les heures sur 10 mois, on va trouver plus d'heures sur 12 mois. Et donc, ils ont proratisé l'IJ. Donc oui, cet effet mécanique fait que celui qui fait 507 heures en 12 mois et qui les faisait aussi avant, celui-là, il est pénalisé. Maintenant, celui qui a plusieurs projets, effectivement, dans un créneau de 12 mois, on trouvera plus d'heures que dans un wagon de 10 mois. Et donc celui-là, c'est pour ça qu'on a dit que d'une manière générale, au niveau statistique, on a IJ constante. Le problème, c'est qu'on n'est pas des statistiques. Et effectivement, il y en a plein pour qui vont être impactés par ça et d'autres qui vont pas être impactés. Bon, et puis ceux qui des moyens, etc. Par contre, par rapport aux effets de tous ceux, moi j'étais en correspondance avec un mec qui a monté son truc dans le 16e là, arrondissement, et qui a monté le groupe de la télé, etc. Le mec me dit qu'il gagne 6500 euros par mois. Bon, après, faut savoir si à 6500 euros par mois, c'est bien de toucher l'assurance chômage ou pas. Il se trouve que c'est vrai qu'il y a toute une partie de la population intermittente, moi j'en connais plein, qui ont commencé à toucher des ACEDIC de manière inédite à partir de 2003. à partir de 2003. Parce que, effectivement, comme la date anniversaire donne des rendez-vous de carence tous les ans, comme là, il n'y avait plus de d'échéance dans le temps, qu'il y avait jusqu'à épuisement, eh ben, les gens, il y a certaines personnes, au niveau des cadres sup, qui ont commencé de manière inédite à toucher des ACD comme pour 2003. Ces gens-là, maintenant, on ne les touche plus. C'est vrai. Mais à un moment donné, cet accord-là, il faut bien le reconnaître. Je ne parle pas pour les... Effectivement, il faudrait revoir. Il y a certaines classes moyennes qui sont impactées qui ne devraient pas. Mais quand même, globalement, cet accord a quand même tendance à prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et rien qu'à ce niveau-là... Enfin, en tout cas, moi, je le salue.
Moi, je voulais juste préciser la mode du moment. Donc, on parle de ce groupe, effectivement, très mobilisé, qui sont des gens qui bossent à la télé. Alors, ils ont trouvé qu'en faisant une demande de calcul anticipé, dès qu'ils ont 700 heures, ils évitaient les carences. Donc, c'est le conseil qui se donne sur un groupe où il y a 6000 personnes. Moi, je suis emmerdée à être obligée de surveiller ce qui se passe dans un autre groupe où il y a 14 000 personnes. Donc, je vois bien les grandes tendances qui se dégagent de ce que les gens racontent. Donc, mis à part le fait qu'on peut demander un calcul anticipé, ils se montent tous... C'est les conseils qui se donnent comme auto-entrepreneurs à côté pour faire en auto-entrepreneuriat le manque à gagner qu'ils perdent avec les acédiques. Et là, depuis 10 jours, les questions pleuvent. Mais pleuvent. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une réponse pour être à la fois intermittent et auto-entrepreneur pour cumuler. Voilà. Donc, tout le monde pose la question aussi, le portage salarial. Donc, moi, je vois plein de solutions passées que je ne connaissais pas. Et ça, c'est la tendance en ce moment. C'est ce qui est à la mode. Voilà. Je voulais juste le préciser. Et puis, sinon, pour la formule de calcul, ce n'est pas vrai, Sam. Elle a changé. C'est en baisse.
Elle a été proratisée.
Non, ce n'est pas que la proratisation. Elle est en baisse. Daniel me l'a fourni, je te la fournirai.
Quand on commence à partir dans un débat technique sur les allocations, il faut faire une commission, et ça veut dire que les trois quarts de l'AG veut rentrer. Je pense que c'est la proposition que je fais, d'autant plus qu'il y a une réunion qui était prévue pour le procès du 11 septembre, mais il y aura lieu un moment. Donc, se réunit maintenant. Je vous propose qu'on ne tarde pas à lever l'Assemblée Générale. Ça ne sert à rien de s'épuiser à discuter très tard ce soir. Il y aura une nouvelle Assemblée Générale le 11 septembre. C'était entre nos, le soir, a priori ici, mais donc sous réserve de l'annonce. Il y aura un rendez-vous pour donner dans la manif le 12 au départ de Bastille. Sur ces dernières questions, je pense que la question du danger de l'auto-entrepreneur et autres, il faut qu'on l'ait en tête. Ceci étant dit, un petit argumentaire pour expliquer, quand c'était apparu en 2009, on avait sorti un argumentaire sur ce que ça représentait, parce que ça faisait déjà saliver certains. Quand tu expliques ce que ça te donne sur ta retraite ou sur tes droits à assurance maladie, tu réfléchis rapidement dès que tu vois un petit peu à long terme. Mais il y a des dangers, d'autant plus qu'ils viennent de relever le plafond. Ils veulent clairement, enfin certains l'ont dit, le rêve c'est qu'il n'y ait plus de salariés, il n'y ait plus des auto-entrepreneurs. Quoi. Donc avec un minimum de protection sociale, vraiment un minimum. Bref, donc on va continuer à analyser, y compris dire honnêtement quels sont les effets de l'accord du 28 avril, en positif et en négatif. On l'a fait à différents décryptages, et on le fait au fil de l'eau de la façon dont ça s'applique. Je pense qu'on n'a jamais fait plus transparent dans l'assurance chômage que depuis un an. Voilà. Absolument.
Indépendante de l'accord, parce que vous en avez plein à réclamer, et ce serait bien que plus soit chacun dans sa chapelle, chacun de vous envoyer ses intérêts comme ça. Ils savent le faire, ils veulent, ils disent ces gens qui savent bien bosser, et ce serait très bien, eux ils auront plus facilement.
ça c'est moins sûr. Mais je suis d'accord avec toi et on y œuvre. Jean-Paul Guyot, président du comité d'experts, y œuvre en essayant de faire en sorte que l'UNEDIC ne profite pas, parce que l'UNEDIC compte torpiller le comité d'experts. Hein, donc, et c'est tout pour ne pas y être et ne pas donner les chiffres. Donc c'est une question. Voilà, donc il reste des spectacles avec des éléments sur mobilisation. On avait prévu des tracts qu'appelés au 11 et au 12, je ne les distribue pas parce qu'il est en partie obsolète, on va le ressortir. Mais par contre, des tractages sont possibles. Si des personnes veulent organiser à 2 ou à 3, on l'a fait, quelques camarades l'ont fait à Croix-Niver vendredi, des tractages pour appeler au 12 et autres, ça s'organise très facilement et on peut fournir du matériel, des photocopies, des éléments. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a encore le contact qui existe et qui est parfaitement nécessaire pour convaincre un certain nombre de camarades, de collègues d'être en grève, collègues ou pas collègues d'ailleurs, quels que soient les métiers, d'être en grève le 12 et de commencer la mobilisation le 12 dans les boîtes et dans la rue. Merci à vous tous et toutes d'être venus ce soir.